Philosophie du vivant, Père Philippe, 14 décembre 1983 à Saint-Joseph.
Question sur les passions. Comme vous êtes gentil. Ça, c'est la passion de saint Thomas. C'est la passion étant un état, donc c'est une objection, une question, quoi. Peut-on dire qu'il y a autant de modalités de la passion que celle-ci est plus liée à des puissances spécifiques différentes? Passion liée à l'intelligence, la passion des intellectuels. Hein. Les intellectuels sont passionnés et irascibles parce qu'ils l'ont développé chez eux. Ils aiment de mordre, hein. Ça fait partie des théologiens, vous savez, la rabiesse des théologiens, c'est connu. Alors c'est quelque chose de particulier. Et des philosophes, on n'en parle pas. La passion liée à la volonté, la passion liée à la mémoire, la passion liée à l'imagination, la passion liée à la sensation. Pouvez-vous expliquer le lien entre l'appétit naturel, l'instinct et la passion? Oui, là, il y a quelque chose intéressant à noter. Vous voyez que ce point de vue-là, ce serait tout simplement voir du côté de l'exercice de la passion comment les passions peuvent se développer dans un terrain différent. La passion comme telle. Hein. Alors, je vais d'abord prendre la seconde question, puis je reviendrai à la première. Il y a un appétit naturel dans le langage de saint Thomas. Dans le langage moderne, c'est difficile d'appeler appétit naturel. Mais dans le langage de saint Thomas, il y a l'appétit naturel. Dans le langage moderne, il y a l'instinct. C'est toujours très important de voir comment les mots sont nés et représentent des points de vue différents. Et puis, il y a passion. Et la passion, elle est ancienne et moderne. Elle passe au-dessus des doigts. Hein, ça, c'est le poste. Alors, la passion, saint Thomas, les modernes parlent de la passion, c'est bien évident, les psychologues parlent de la passion. Ça existe toujours, la passion. Personne ne peut nier qu'il y a des passions. Il suffit d'avoir vécu 8 jours en une communauté pour savoir qu'il y a des passions. Quand on vit seul, on pourrait croire qu'il n'y a pas de passion. Quand on vit seul, mais dès qu'on vit avec quelqu'un d'autre, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Ça ne va pas. Quand on vit seul, on ne s'en aperçoit pas, mais quand il y a quelqu'un d'autre en face, on s'aperçoit tout de suite que les diapasons, ça peut monter plus ou moins, mais ça peut descendre. Alors, passion, c'est quelque chose d'assez particulier. Alors, l'appétit naturel, la passion, puis on va regarder après l'instinct. L'appétit naturel, c'est quoi? Dans le langage précis de saint Thomas, l'appétit naturel, c'est de montrer que toute détermination, implique une tendance. Autrement dit, toute forme implique une détermination et implique une tendance. C'est plus mieux de dire toute forme. Toute forme implique une détermination et implique une tendance. Toute forme naturelle, toute forme qui existe implique les deux. Il y a toujours les deux, il y a toujours les deux aspects qu'on peut voir. La détermination, c'est ce qu'est le premier. La forme détermine. La forme spécifie. Elle détermine. C'est ça le propre de la forme. Détermination implique une forme. Je prends forme là au sens le plus général. Prenez eidos. Grec, c'est toujours plus clair, n'est-ce pas? Et morphé. Morphé, c'est la forme qui informe. Donc, la forme peut être parallèlement à la matière. Alors, une forme qui détermine la matière, c'est la morphe. Une forme prise en elle-même, c'est l'eidos. Elle détermine. Mais toute forme détermine. C'est le propre de la forme de déterminer. De supprimer une indétermination, puisque ça détermine. Donc, de supprimer une potentialité. faut essayer de comprendre ce que c'est que la forme. La qualité est une forme. C'est même la qualité, c'est la forme la plus manifeste. La qualité. La lumière, hein, qui est aussi une qualité. Alors, la qualité, elle détermine puisqu'elle ennoblit. Le propre de la qualité, c'est d'ennoblir. Elle détermine en ennoblissant. La nobilitas, c'est la qualité. Et en même temps, elle implique une tendance vers. Il y a toujours les deux. Toujours. Et alors, cette tendance vers de la forme, c'est l'appétit naturel. Je prends un exemple classique que vous aimez bien, le nous. L'intelligence implique une qualité. L'intelligence est une qualité. L'intelligence est une puissance. C'est une faculté, ça dépend comment vous l'appelez, c'est peu importe. Hein. C'est une dynamis. Dynamis. Toujours. Le grec permet d'être au-delà des querelles. La dynamis. Hein. Alors, c'est une dynamis, l'intelligence. C'est une capacité de poser des actes. C'est une capacité. Une capacité pour penser, parce qu'il y a de connaître. C'est ça, le nous. Eh bien, le nous, puisque c'est une forme, le nous a un appétit naturel. Parce que vous êtes intelligent, vous avez un appétit naturel pour connaître. Vous avez un appétit naturel pour aller très loin dans la connaissance. Hein, puisqu'on pourra chercher jusqu'où va cet appétit naturel. Jusqu'où va cette tendance vers. Jusqu'où va cette tendance vers. Jusqu'où cette dynamis naturelle, qui est un appétit naturel, est orientée vers. Alors, est-ce qu'elle est orientée vers ce qui est? Est-ce qu'elle est orientée vers la source de tout ce qui est? Est-ce qu'elle est orientée vers l'exister de l'être premier? Est-ce qu'elle est orientée vers l'essence de ce qui est? Appétit naturel. L'appétit naturel, c'est c'est vrai. C'est pas si commode que ça, parce qu'un appétit naturel est déterminé, mais implique une indétermination. Alors, implique une capacité. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est une capacité. C'est une capacité quasi infinie. Il y a une capacité quasi infinie. Donc, il y a une tendance vers l'infini. Toute forme spirituelle a une tendance vers quelque chose d'infini. N'est pas très très déterminé. Voilà ce qu'on appelle l'appétit naturel. Vous comprenez bien que je n'ai pas l'expérience de mon appétit naturel. Je n'ai pas l'expérience. Je ne cherchais pas à tâter de tout. Où est-ce que j'en suis dans mon appétit naturel de mon os? Votre nous et votre capacité, vous ne le saisissez pas directement. Qu'est-ce que vous saisissez directement? Cogito. Je pense, je cogite. Ça, vous pouvez avoir tout de suite l'expérience. Vous avez l'expérience que vous cogitez, puis tout d'un coup, vous ne cogitez plus, et c'est le rêve. C'est la chute dans le rêve. Et puis, le rêve, vous ronflez. C'est encore une chute plus grande. Alors on passe du cogito au rêve et à la dormition. Vous avez la vie spirituelle, la vie sensible, la vie végétative. Dormir, c'est évident, la vie végétative. C'est pour ça que post-chiboum, n'est-ce pas, comme disaient les anciens, le point de vue de la vie végétative est particulièrement en acte. Et donc, à beaucoup de peine d'être dépassé par le point de vue sensible et encore plus par le point de vue spirituel. Alors, vous n'avez pas donc l'expérience directe du nous. Vous n'avez pas l'expérience directe de l'appétit naturel. Mais vous essayez de saisir ce que cet appétit naturel à partir, philosophiquement parlant, pas théologiquement, mais philosophiquement parlant, vous saisissez ce qu'est cette intelligence à partir des diverses opérations. Il y a une source que vous posez. L'intelligence est une source de toutes mes activités. C'est une capacité. Capacité, donc je saisis par là. Vous voyez, c'est très difficile de saisir l'appétit naturel. Ça dépend où est-ce que vous en êtes arrivé. Pour celui qui n'est jamais marché sur deux pieds, qui a toujours marché à quatre pattes, l'appétit naturel, c'est quatre pattes. Il n'a pas inventé autre chose, il restera à quatre pattes. Alors celui qui doit être l'intelligence marche à quatre pattes, hein, parce qu'il y a des gens comme ça, et il ne voit pas que l'intelligence est faite pour contempler. Alors l'intelligence est faite pour contempler. Il y a une capacité à la contemplation, il y a un appétit naturel à la contemplation, il y a un appétit naturel à la vérité. Mais pour ça, il faut avoir atteint la vérité. Si je n'ai pas atteint la vérité, je ne peux pas le dire. Alors il y a un regard théologique de sagesse et d'un jugement de sagesse sur le nous, à partir du Créateur qui a voulu réaliser dans la créature une participation de l'esprit et du nous. Et alors à ce moment-là, vous avez une conception différente de cette capacité et de cet appétit naturel. L'appétit naturel tel que le voit le théologien dans un jugement de sagesse n'est pas le même que celui du philosophe qui saisit l'appétit naturel à partir d'une induction. Deux découvertes différentes. C'est la même réalité qu'on touche, mais dans deux lumières différentes. Oui. Puisque c'est quelque chose que je ne saisis pas directement, donc je saisis analogiquement. Donc je le saisis selon des lumières différentes. Vous avez la même chose, c'est pour que vous compreniez ça, c'est très important au point de vue philosophique, c'est par rapport à la matière. Je me souviens d'un étudiant à Fribourg, il était japonais, et il voulait faire une thèse sur l'idée de la matière. L'idée de la matière. Qu'est-ce que c'est que la matière? Quand il m'a dit ça, je l'ai renvoyé à quelqu'un d'autre, parce que je n'avais pas du tout envie de faire une thèse sur l'idée de la matière. L'idée de la matière, vous comprenez? La matière, vous ne la saisissez pas directement. Vous la découvrez inductivement, comme un principe radical, une capacité. La matière, elle a un appétit naturel. La matière telle que le philosophe en parle, hein, elle a un appétit naturel, la matière. Vous savez cette phrase extraordinaire que dit Aristote, hein, la matière a un appétit naturel vers la forme. Tant que la matière n'est pas informée, elle reste imparfaite, elle est ordonnée vers la forme. Et c'est quand même intéressant de se dire quelquefois l'appétit naturel dans ce cadre de plus matériel. Les deux oppositions, c'est tout éclairant, le nous et la matière, hein, les deux appétits naturels de l'un et de l'autre. Parce que l'un et l'autre ont quelque chose d'infini. La matière a un appétit naturel infini, une capacité à être déterminée de manière infinie. Bien, vous pouvez regarder la matière pour saisir l'appétit naturel de la matière. Vous pouvez regarder la matière dans une lumière de l'activité artistique. L'artiste. L'artiste a un regard sur la matière, ce qui est capable d'être transformé. Alors, la matière se comprend en fonction de l'inspiration. C'est très vrai, hein? Un artiste inspiré a un autre regard sur la matière que quelqu'un qui n'est pas inspiré. Parce que l'artiste, quand il voit, ce qu'on pourrait faire avec ça, il voit tout de suite, hein, ce bout de bois, c'est extraordinaire. L'autre, non, on peut le brûler. C'est tout simplement. C'est matière à combustible, tu vois. La matière à combustible, très bien, matière à combustible, ça se vend sur le marché. Tandis que l'autre, c'est tout de suite, la matière, toutes les possibilités. Il voit cette matière, il la saisit comme presque de l'intérieur. Alors, la matière en fonction de l'artiste, la matière en fonction du vivant, en fonction de l'arbre, la matière en fonction de la forme, la matière au niveau proprement éthique. Vous voyez, la matière se saisit à tous les niveaux différents. C'est pour ça qu'une idée de la matière crois que la matière est nécessairement, c'est nécessairement quelque chose que je saisis analogiquement. Puisque je saisis analogiquement la matière et l'appétit de la matière, mais il y a des diverses conceptions suivant les plans dans lesquels je mets. Eh bien, de fait, l'appétit naturel est quelque chose que je saisis analogiquement. Je ne le saisis pas directement. Puisque je le saisis, je le saisis analogiquement, ah, très important, où est-ce que vous vous situez? À quel niveau vous vous situez? Tandis que quand je réfléchis sur le cogito, ben, c'est pas du tout une saisie inductive, c'est une saisie immédiate. Alors, je peux réfléchir sur le cogito, je peux le saisir. Tandis que là, la matière, l'appétit naturel est quelque chose que je saisis inductivement. Donc, l'appétit naturel, c'est quelque chose de fondamental, c'est une capacité fondamentale qui vient déterminer une forme. Elle a une tendance vers un appétit naturel, parce qu'elle demande d'être déterminée. La passion, c'est tout à fait différent, je saisis directement la passion. Quand je suis passionné, je le sais. Quand je ne suis plus passionné, en dessous du niveau de la mer, et que ça a baissé beaucoup, le niveau de la mer morte, hein, alors c'est quelque chose, hein. Le niveau de la mer morte, c'est bien, 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 bien. Alors, quand je suis en dessous du niveau habituel, je suis dépressif. Hein, les passions ne sont plus là. Alors, je suis dépressif, je suis dans cet état-là. Les passions ont des niveaux multiples et divers. Hein. C'est à la fois, ça m'exalte, ça me déprime. C'est pas l'appétit naturel. Et je le saisis directement, la passion. Parce qu'on va essayer de saisir. Qu'est-ce que c'est que la passion? Je la saisis directement. Donc, que la passion s'enracine dans un appétit naturel, c'est bien évident. Elle s'enracine dans un appétit naturel. Mais est-ce que la passion comme telle, elle n'est pas l'appétit naturel? J'ai une connaissance directe de la passion. Je peux la saisir directement. Donc, je distingue les deux. L'instinct. Alors, l'instinct, ça c'est une terminologie beaucoup plus récente. L'instinct implique toujours un appétit naturel. Mais ce n'est pas l'appétit naturel tel que l'étudie le philosophe. L'instinct, c'est quelque chose que je détermine à partir de la dynamis. Donc, c'est lié à l'appétit naturel. Mais c'est plus que l'appétit naturel. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'instinct par rapport à l'appétit naturel? Mais je ne dirais pas que l'intelligence a un instinct pour... Oui, l'instinct est réservé à la vie biologique. C'est réservé à la vie biologique. L'instinct est déterminé à domicile, comme on dit. On ne dira pas que l'appétit naturel est déterminé à domicile. Quand il s'agit d'un appétit naturel qui est spirituel, vous voyez. Il est naturel, mais il est spirituel. L'esprit a un appétit naturel. Tandis qu'on ne dira pas qu'il a un instinct. On ne dira pas que votre intelligence a un instinct. J'ai l'instinct de la vérité. Ça ne va pas. C'est très curieux. Vous ne pouvez pas dire ça. Il faut dire que j'ai un appétit naturel de la vérité. Alors, oui. Je suis un animal supérieur. Et parce que je suis un animal supérieur, j'ai un appétit naturel de la vérité. Ce que les animaux inférieurs n'ont pas. J'ai quelque chose qu'eux n'ont pas. J'ai cet appétit naturel de la vérité. Je ne dirais pas j'ai un instinct de la vérité. Tandis que j'ai un instinct particulier qui me porte vers la boisson. Un instinct qui me porte quand je n'ai pas bu depuis longtemps, qu'il fait chaud. J'ai un instinct qui me porte vers ça. Un instinct vers l'aliment. Ça qualifie l'appétit naturel au niveau biologique. Alors je vous dis l'instinct sexuel, tout le monde le dit, sans savoir ce que ça veut dire. Parce que c'est très difficile de savoir ce que c'est que l'instinct. C'est un de ces mots très confus. Alors qu'est-ce qui ajoute de plus l'instinct? Ça, ce serait très intéressant de voir qu'ajoute de plus l'instinct. Je crois, premièrement, l'instinct est plus restreint que l'appétit naturel. Mais toujours le petit procédé aristotélicien. Quand vous avez deux notions qui sont proches l'une de l'autre, prenez leur différence du côté de l'extension. Première chose qu'on doit faire. Du côté de l'extension, on comprend tout de suite. l'extension de l'appétit naturel est beaucoup plus grande que l'instinct, puisque je ne parle pas d'instinct d'intelligence, tandis que je parle d'un appétit naturel de l'intelligence. Je parle d'un appétit naturel de la volonté. Donc, au point de vue de l'extension, l'instinct est plus restreint. Il est lié à la vie biologique. Alors, pourrait-on dire, l'instinct, c'est l'appétit naturel au niveau de la vie biologique. Ce ne serait pas si mal, déjà. L'appétit naturel au niveau biologique. Et c'est pour ça qu'il est déterminé à nous. Parce que l'appétit naturel au niveau biologique est déterminé à nous. Ça, c'est vrai. Il est déterminé vers une seule chose. L'instinct est toujours déterminé vers une seule chose. Et évidemment, vous pouvez pervertir l'instinct. On pervertit l'instinct par l'imaginaire. Oui, perversion de l'instinct. Est-ce que vous pourriez dire perversion de l'appétit naturel? Je prends le langage pour ça, pour que nous voyons un peu ce que c'est impliqué dedans. Est-ce que je peux dire perversion de l'appétit naturel? Oui, d'une certaine manière, mais au fond, on dit plus facilement perversion de l'instinct. Et quand on parlera, par exemple, d'une... Vous faites passer un appétit naturel vers quelque chose d'autre. Il y a un transfert. Le gosse crie en fonction de son instinct. Il a besoin du biberon. S'il est bien religieux dès son berceau, il crie toujours à la même heure. Il a un règlement qui vient bien toujours. Hein. Alors, telle heure, le biberon, telle heure, bien. Première éducation, hein, c'est ça. C'est les heures bien marquées. C'est très bien. Alors, le biberon n'est pas chaud, c'est assommant d'entendre un gosse crier. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, à ce moment-là, on prend un jouet, n'importe lequel, on fait le plus bruit possible pour détourner l'attention. Hein, détournement. Transfert. Faites un transfert, détournement. Et là, il se porte vers autre chose. Pendant quelques temps. Et puis, ça revient. Vous voyez? Bon, il y a donc possibilité de faire que l'instinct, par l'imaginaire, soit pris par autre chose. Soit détourné de son adnum. Parce que quand il crie pour avoir l'aliment. C'est très déterminé. Il ne crie pas du tout pour avoir du bruit. Non, pas du tout. C'est tout à fait différent. Donc il y a là quelque chose qui fait que l'instinct comme tel peut être détourné par l'imaginaire. Normalement, c'est un détournement de l'instinct. C'est plus l'instinct comme tel. L'appétit naturel est donc très proche. Je me demande si la différence de l'appétit naturel et l'instinct, c'est que l'instinct implique, il me semble, un exercice déjà plus déterminé que l'appétit naturel. Vous voyez, l'appétit naturel est une capacité. L'instinct n'est pas une capacité. Il y a déjà un exercice dans l'instinct. C'est pour ça qu'on dira encore plus la détermination. Impliquera plus la détermination. C'est ça qui me semble être dans la notion de l'instinct. Mais c'est difficile à préciser. Appétit naturel et exercice. Il y a un exercice. Donc c'est pas au même niveau. Bon, vous saisirez l'instinct beaucoup plus immédiatement à partir de l'acte. L'instinct de boire, quand on a soif, on crie, le gosse crie, en fonction de ce désir qu'il a. Vous ne direz pas appétit naturel, c'est instinctif. J'ai fait ce mouvement instinctivement, vous ne direz pas selon mon appétit naturel. Ça ne va pas, vous direz c'est instinctif. Donc le point de vue de l'instinct est lié beaucoup plus à l'exercice. Il y a un exercice déterminé, non pas en fonction d'une finalité, mais en fonction d'une détermination dans l'exercice. C'est pour ça qu'on dirait une motivation. Il porte sur telle chose. Tandis que l'appétit naturel est déterminé par le point de vue de la finalité. Donc appétit naturel regarde le point de vue de la fin, et l'instinct, c'est le point de vue de l'exercice. C'est le jour où on ne regarde plus la finalité qu'on mettra à parler d'instinct. Et alors à ce moment-là, l'instinct va impliquer des déterminations que l'appétit naturel n'implique pas. Parce que dans l'exercice, il y a des déterminations qui sont impliquées dedans. Alors il me semble qu'on a ça quelque chose de beaucoup plus complexe que l'appétit naturel, qui est une notion plus simple et qui est plus immédiatement ordonnée vers la fin. Tandis que l'instinct, c'est le déclic. C'est ce qui se fait spontanément. C'est ce qui se fait direct, sans contrôle. C'est instinctif. C'est un exercice qui jaillit spontanément et qui est donné dans sa détermination. Vous voyez, c'est pour ça que la notion de l'exercice est impliquée dans l'instinct, tandis qu'elle n'est pas impliquée dans l'appétit naturel. C'est dans ce sens-là que je crois qu'on doit essayer de comprendre la distinction. Bon, une fois que vous avez ça, vous pouvez revenir à la première question. Et la première question va tout simplement nous obliger de regarder la nature de la passion. Donc la passion étant un état, je ne dirais pas que la passion est un état, oui, c'est un état, mais au fond la passion est avant tout une opération. C'est plus une opération qu'un état. La conséquence de la passion, c'est que ça me met dans un état d'irascibilité. Vous voyez, c'est ce qu'on dira. Je suis dans un état d'irascibilité. Donc, l'état d'irascibilité, ce n'est pas l'irascible. C'est quelque chose qui est une conséquence. Donc la passion est avant tout une opération vitale. Une opération. Opération vitale, sensible et affective. Tous les éléments qui sont impliqués dans la passion. Opération vitale, sensible et affective. Mais c'est une opération vitale. Et donc elle est immanente au sujet. Elle pourrait avoir des effets secondes, mais elle est immanente à moi, au plus intime de moi-même. Quand je suis passionné, n'importe quelle passion, ça ne se voit pas nécessairement. Je peux manifester ma passion instinctivement. Je la manifeste instinctivement, sans contrôle. Quelqu'un qui n'a pas contrôle de soi, bien, manifestera sa passion. Quelqu'un qui a un très grand contrôle sur soi, sur lui-même, pourra très bien cacher ses passions. Il aura un calme extraordinaire. Et puis, hein, ça jaillit dedans, ça boue dedans. Alors, si on connaît très bien la personne, on arrivera à le déterminer. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, alors, la passion, opération vitale, c'est l'opération vitale, il va bien. Au niveau sensible et au niveau affectif. Donc la passion étant un état, peut-on dire qu'il y a autant de modalités de la passion que celle-ci est plus liée à des puissances spécifiques différentes? Alors, comment on va diversifier les passions? Puisque c'est une opération affective, on va la déterminer par son objet. Et c'est là, on voit très bien l'analyse tout à fait différente que fait le philosophe de la passion que le psychologue. Et ça, c'est très intéressant à voir la différence. Le psychologue parle de passion, mais différencie les passions autrement que l'analyse que fait le philosophe. Le philosophe veut analyser la passion et voir la diversité des passions. Comment analyse-t-il la passion pour voir la diversité des passions? Il le voit dans le point de vue de l'objet. Qu'est-ce qui spécifie telle passion? Il y a une passion amour, il y a une passion haine, il y a une passion colère. Qu'est-ce qui spécifie ces diverses passions pour leur donner leur caractère particulier? Donc, c'est l'objet des passions qu'ils cherchent, avant tout. Mais cependant, je peux très bien aussi voir que la passion qui existe à un niveau sensible, de ma vie sensible, c'est mon âme sensitive, va impliquer une capacité, une dynamis, une capacité. Donc toute passion présuppose un appétit naturel au niveau sensible. Mais l'appétit naturel sensible n'est pas la passion. Mais ça présuppose. Alors, le sujet de la passion est toujours au niveau sensible. Donc au sens strict, il n'y a pas de passion d'intelligence. Je ne peux pas dire ça. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a certaines passions qui seront plus proches de l'intelligence. Et ça m'a dit, cette chose très très jolie, qu'il ne faut jamais oublier, que l'irascible et la colère, c'est la passion la plus proche de l'intelligence. Donc, ne vous étonnez pas si les intellectuels, ceux qui développent leur intelligence, vont développer leur capacité d'irascibilité. Plus notre intelligence est développée, faisons attention, plus notre intelligence est développée, plus notre irascible, normalement, est éveillé. Mais ne dites pas, j'ai mon irascible très développé, donc mon intelligence est très développée. Vous ne pouvez pas dire ça, le lien de conséquence n'est pas vrai. Mais vous pouvez dire, mon intelligence est très développée, j'ai fait de grands efforts intellectuels pour développer mon intelligence, il est normal que mon irascible se développe davantage. Et c'est très vrai qu'il y a un lien particulier entre l'irascible et l'intelligence. Mais vous voyez, ce n'est pas au sens strict une modalité d'une passion. C'est une affinité, c'est une proximité qui est entre les deux. Mais ce n'est pas une modalité. Les passions sont au niveau de la vie sensible. Et donc la vie spirituelle ne modifie pas les passions. C'est au niveau sensible. Alors il faudra saisir à l'intérieur de la vie sensible les différentes passions. Donc ceci, pour l'intelligence et la volonté, c'est net. Il y a des affinités. Il est évident que le concupiscible est plus en affinité vis-à-vis de la volonté que vis-à-vis de l'intelligence. C'est facile à comprendre. Le concupiscible, parce que le concupiscible est du côté affectif et que la volonté est du côté affectif, il y a un lien beaucoup plus fort entre les deux. Ça ne veut pas dire que les gens très volontaires sont des gens du concupiscible. Pas du tout. Parce qu'au contraire, quelquefois, ils domineront davantage leur concupiscence. Mais c'est vrai que le développement affectif volontaire appelle un développement du concupiscible. Ça, c'est sûr. Si votre volonté, si votre appétit volontaire, si votre capacité de volonté d'aimer est plus grande, normalement, le concupiscible se développe plus. Il y a un lien entre les deux, une affinité, mais pas une modalité. La mémoire n'a rien à voir avec la passion prise en elle-même. Je ne fais pas intervenir la mémoire pour définir ce que c'est que la passion. Ça, c'est sûr. Mais les vieilles rancœurs, ça aide à la haine. Hein. Ça nourrit la haine, les vieilles rancœurs. Il y a si longtemps qu'il me poursuit, celui-là. Il y a si longtemps qu'il m'en veut. Et bien, on se met à rappeler toutes les fois. Donc, vous voyez, la mémoire est là pour me rappeler chaque fois qu'il a voulu me piquer, qu'il a voulu me faire du mal. Je l'ai rencontré là. La mémoire qui est là. Alors, elle anime une espèce de rancœur. Elle anime donc une espèce de haine. Indirectement, la mémoire peut jouer. La mémoire dans Proust pour la concupiscence de la Madeleine. C'est très net. La mémoire augmente. Ça peut être une occasion d'augmenter, d'intensifier la mémoire, la passion. Pas directement, mais indirectement. Donc là, on ne peut pas dire que la mémoire modifie, mais il y a une affinité. Parce que la mémoire peut intensifier le mouvement passionnel. L'imagination, oui, directement, parce que les passions sont toujours liées à l'imagination. Et les passions sont toujours liées aux sensations. Oui, donc, je ne peux pas dire que ça modifie les passions. Les passions doivent, on doit découvrir la diversité des passions à l'intérieur même des passions. C'est dans la zone passionnelle que je découvre les différents objets des passions. Et c'est ce que nous allons essayer de voir, ça. Je vous ai déjà dit la diversité des passions. Alors maintenant, nous allons progressivement comprendre ces diverses passions. Alors la passion numéro 1, celle qui d'une certaine manière commande toutes les autres, qui est la passion la plus redoutable et la plus aimée, c'est l'amour. C'est la passion la plus redoutable, c'est évident. Parce que l'amour est à la source de toutes les passions. Je vous ai dit la dernière fois qu'on pourrait dire que la diversité des 11 passions, en réalité des 10, puisqu'elles sont 11, et si je parle de l'amour, donne les 10 modalités de l'amour. Ça, il faudra le voir au terme. Posez-vous au moins la question. C'est intéressant, ça. Saint Thomas ne le fait pas, mais Saint Thomas traite les passions en théologien. faut pas l'oublier. Hein. C'est pas une étude philosophique que nous donne saint Thomas. C'est pour ça que je peux pas me servir directement de ce que dit saint Thomas. Je peux pas m'en servir directement pour faire un traité de philosophie sur l'amour. Mais ça m'intéresse. Parce que là, c'est l'originalité de saint Thomas, une des plus grandes originalités de saint Thomas au point de vue théologique, c'est d'avoir inséré dans sa théologie un traité des passions. Après, on l'a fait, mais le premier. Il fallait le faire. Mettre dans sa théologie, pour les novices, un traité des passions. C'est quand même quelque chose. Et vous savez pourquoi saint Thomas a introduit cela ? C'est à cause de son étude sur le Christ. Parce qu'on était en présence de deux traditions par rapport au traité du Christ. En disant, les passions ne sont pas dignes du Christ. C'était le relent stoïcien. La passion comme telle est mauvaise. Donc le Christ ne peut pas avoir quelque chose de mauvais. Donc il n'y a pas de passion dans le Christ. Le Christ est quelqu'un sans passion. Il est tellement bien qu'il n'a pas de passion. Mais tellement bien dans le langage stoïcien. Il est tellement bien. Un stoïcien devait rencontrer le Christ dans sa physionomie comme quelqu'un qui n'avait pas de passion, qui était au-delà de toute passion. Puis alors, l'autre théorie, il dit, ah non, pas du tout, c'est impossible, la passion est humaine. Si le Christ a assumé parfaitement l'homme, il doit avoir assumé la passion. La théorie plus aristotélicienne. Parce qu'il y a les deux. Au fond, pour Platon, la passion n'est pas non plus Eros, la passion est bonne. Ça, c'est sûr. Donc, pour un platonicien, pour un néo-platonicien, il n'y a pas un rejet total des passions. Tandis que pour un stoïcien, il y a un rejet total. Or, les stoïciens ont eu un très grand rôle à jouer sur les premiers pères de l'Église. On comprend très bien qu'il y a eu, de fait, deux théories sur les passions du Christ. Et saint Thomas a voulu en avoir le cœur net. Et c'est pour ça qu'il a étudié. Et quand on fréquente ceux qui ont étudié saint Thomas de très près, et surtout les manuscrits de saint Thomas, c'est très très curieux que dans les livres des sentences, là où il y a eu le plus de ratures, c'est son traité sur les passions du Christ. Saint Thomas s'y est repris quelquefois 5-6 fois pour arriver à poser dans le Christ des pro-passions, c'est-à-dire des passions qui n'ont jamais été au-delà de la mesure de la sagesse. C'est pour ça qu'il dit pro-passion, c'est pas des passions, parce que pour bien faire comprendre que les passions qu'on met dans le Christ ont toujours été selon la finalité propre de sa vie. Jésus n'a jamais eu une colère purement passionnelle. Il a eu une sainte colère. Et quand on dit sainte colère, ça veut dire qu'il y avait des passions. Quand Jésus a pris le fouet pour chasser les vendeurs du temple, c'était passionnel, mais au niveau, non pas du tout d'une passion voulue pour elle-même, mais d'une passion tout entière ordonnée au zèle spirituel qui l'animait vers le Père. Donc c'était une passion entièrement assumée par l'amour spirituel, mais ça demeurait une passion en elle-même. Donc la passion n'était pas brûlée par un amour spirituel plus grand. Non, la passion existait comme passion, mais elle était transformée pour aller jusqu'à l'amour spirituel, pour ne pas gêner l'amour spirituel. Oui. Tandis que pour nous, quelquefois, quand la passion est trop développée, alors ça peut gêner le développement d'un amour spirituel. On est gêné, on a un fil à la patte, on n'arrive pas à se dépêtrer. Parce que justement, on est gêné par le point de vue passionnel. Si la passion est entièrement humanisée, spiritualisée, divinisée, la passion, alors à ce moment-là, ne gêne plus le développement spirituel. Alors, voyons maintenant ce qu'est la passion. Alors, je vous renvoie à saint Thomas. Je vous ai dit, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup saint Thomas, c'est toujours le traité de la passion qui est peut-être le premier traité qu'on veut voir dans sa vie. Parce que c'est très bon. C'est très intéressant, c'est passionnant. Je vous ai déjà dit la réaction quand j'ai fait ça à Paris avec les psychanalystes freudiens. Je leur ai exposé les 11 passions de Saint-Amand. Ils étaient ébahis. Mais ça va bien plus loin que ce qu'on nous dit. Ça va bien plus loin, c'est pas tellement. Ça va beaucoup plus loin. Et alors, j'ai été très étonné de la manière dont saint Thomas, vous voyez, regardait ces différents aspects de la passion. Et la minutie avec laquelle il distinguait. Alors, évidemment, c'est deux choses différentes. On ne peut pas mettre en opposition l'étude de saint Thomas et l'étude freudienne des passions. C'est deux niveaux différents. Donc il ne s'agit pas de rivaliser l'un par rapport à l'autre. Il n'y a pas de rivalité entre les deux. Il y a deux niveaux. Saint Thomas étudie l'analyse des passions dans une lumière théologique. C'est une lumière théologique. Hein. Chaque fois que vous lisez la somme, dites-vous bien, tout le temps, c'est une lumière théologique. Vous n'êtes pas en philosophie. Vous êtes en théologie, c'est-à-dire dans une vision de sagesse. Freud, lui, étudie les passions non pas en analysant leur objet, mais en regardant l'exercice des passions, comme l'exercice de l'instinct. Et les passions liées à l'instinct, liées à l'imaginaire, c'est l'exercice. De sorte qu'il voit tout simplement deux grands aspects dans les passions, le point de vue du concupiscible et le point de vue de l'irascible. On comprend très bien. C'est les deux grandes forces, si vous voulez, qui sont en nous. Le concupiscible amène des dépressions, les racines amènent des exaltations. Pour un psychanalyste, c'est ça qui est intéressant, de voir les deux choses. Et regarde le point de vue, voyez, du rôle de la passion dans notre état de vie, dans nos humeurs, comme diraient les anciens, non ? De voir comment la passion joue un rôle si important dans notre vie. Et ça, c'est vrai, ça joue un rôle très important. Et c'est pour ça que nous devons être lucides vis-à-vis de nos passions et comprendre comment les deux grandes forces qui sont très anciennes, le concupiscible et l'irascible, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a inventé en premier lieu. Quand c'est déjà chez les pythagoriciens, le concupiscible et l'irascible. C'est chez Platon, c'est bien évident. Et je crois que ça vient des pythagoriciens. Bien évité. Je ne sais pas s'il y a un livre qui a été cherché là-dessus, voir l'origine du concupiscible des racines. À partir de quel moment on a détecté le concupiscible des racines. C'est quand même très important, parce que c'est deux grands aspects de la passion en nous, deux grands aspects complémentaires, c'est complémentaire. Un homme qui est en harmonie avec lui-même, il a une puissance de concupiscible. Et l'irascible est aussi fort que son concupiscible. Et il faut les deux, l'harmonie des deux. Il faut l'harmonie des deux, entre le concupiscible et l'irascible. Mais ce sont deux forces qui se nourrissent très différemment. L'aliment du concupiscible n'est pas le même que celui de l'irascible. Puisque l'aliment du concupiscible, c'est toujours le bien sensible immédiat. Votre concupiscible se précipite tout de suite sur le bien sensible immédiat. L'irascible cherche un bien difficile. C'est pour ça qu'il y a des gens dont l'irascible est extraordinairement développé. Ça, c'est les psychologues qui le remarquent. L'irascible étant tellement développé, ils cherchent toujours à se mettre dans des situations difficiles. Et quand ils sont dans des situations qui sont faciles, ils créent autour d'eux des situations difficiles pour jouer un rôle dramatique. Alors ça, c'est l'irascible. Parce qu'ils ne sont bien que dans la lutte. Ils sont bien dans la lutte. Quand c'est la mer plate, une Méditerranée huileuse, hein, alors vous voyez, ça n'a aucun intérêt, aucun intérêt. Tandis que celui qui est dans le concupiscible, hein, il est très heureux. C'est merveilleux. Il n'attend que cela. Les racines cherchent les situations difficiles pour vaincre. C'est l'homme de la guerre.